Donc, avant de parler de phénomènes critiques et en quoi ils sont particuliers, je vais d'abord vous rappeler avec un exemple simple, celui de la diffusion, par exemple, d'encre dans l'eau, la situation typique en physique et la situation que l'on étudie en mécanique statistique, en physique statistique. Donc, cette situation typique pour la majorité des systèmes physiques, la situation de base, c'est celle où les échelles du phénomène, les échelles de temps et d'espace du phénomène sont séparées. Donc, je vous ai pris l'exemple de la diffusion parce qu'il est vraiment déjà très très bien étudié et emblématique. À l'échelle microscopique, à l'échelle des atomes, la diffusion d'encre dans l'eau peut être décrite par un système, un modèle de billard, donc comme des billes de couleurs différentes, noires pour l'encre, bleues pour l'eau, qui se cognent les unes les autres. Et on peut modéliser tout et comprendre tout le phénomène de diffusion avec ce modèle où la dynamique est à la fois déterministe et réversible. Premier type de description au niveau le plus fin, au niveau atomique, celui à modèle de billard. Au niveau macroscopique, c'est le même, la description historique, l'équation de diffusion. Cette fois, on a une description en termes d'équation au dérivé partiel. On va décrire le profil de concentration de l'encre qui diffuse dans l'eau. Et cette équation de diffusion est maintenant déterministe et irréversible. Et entre les deux, on a toute une hiérarchie de modèles stochastiques, en particulier celui bien connu du mouvement brownien. Donc, pour un même phénomène physique, suivant l'échelle d'observation et l'échelle de la description, on va avoir des modèles très différents. On sait heureusement passer d'un modèle à l'autre, déduire les paramètres du modèle mésoscopique à partir de la description microscopique, déduire les paramètres du modèle macroscopique à partir de la description mésoscopique, mais on a cependant des phénomènes extrêmement différents, comme je vous l'ai dit, déterministes réversibles, stochastiques, déterministe irréversible. Donc, des modèles en apparence complètement différents pour un même phénomène. On est typiquement dans ce qui a été parfaitement décrit par Philip Anderson en 73 dans un article très très célèbre, More is Different, où il explique comment et pourquoi il faut des concepts différents suivant l'échelle à laquelle on considère un système. Donc, ça, c'est la base. Ce que tous les physiciens avaient en tête, ou toutes les personnes, même plus largement que les physiciens, toutes les personnes s'occupant de modélisation de systèmes réels avaient en tête, suivant l'échelle, on va avoir des modèles et des phénomènes différents. Et il est apparu, et ça relativement tôt pour la première observation expérimentale, une classe de phénomènes, appelée phénomènes critiques, qui échappe complètement à ce que je viens de vous dire dans la première diapo. L'exemple historique, c'est celui de l'opalescence critique. Alors, pour la petite histoire, il a été mis en évidence par un scientifique, un savant de l'époque, Cagnard de la Tour, qui avait mis un mélange d'eau et d'alcool dans un fût de canon bien scellé, et en... Donc, dans ce cas-là, on entend le ménisque qui bouge, ça fait flop-flop, et en chauffant, à un moment, on n'entend plus de bruit. Donc, ce qui veut dire que le ménisque, l'interface entre la partie... l'interface a disparu, et première observation d'une non-différenciation entre l'état vapeur et l'état liquide. Là, vous avez des images plus récentes avec du fluorure de sodium, donc c'est une ébullition d'un liquide et vapeur, et à un certain moment, au bout de la courbe de coexistence liquide-vapeur, on n'a plus aucune différence de comportement entre le liquide et la vapeur. Donc c'est ce point critique qui est décrit en thermodynamique. Là, vous avez le diagramme de phase température-pression, les trois phases solide-liquide-vapeur, les lignes de coexistence vapeur-solide, solide-liquide, liquide-vapeur. Donc là, et au bout de cette courbe, ça c'est des choses qu'on apprend relativement tôt, mais on ne nous dit pas ce qui se passe au bout de la courbe, on nous dit juste la courbe s'arrête, mais au moment où la courbe s'arrête, il se passe vraiment des choses extrêmement particulières. Donc c'est un événement très rare, vous voyez, dans toutes les combinaisons possibles de température et de pression, il n'y a qu'un seul point, température et pression parfaitement définies, événement très rare, mais il est apparu comme ayant des conséquences aussi bien pour la compréhension des phénomènes physiques que pour les techniques pour étudier les outils théoriques pour étudier ces phénomènes, c'est apparu comme un point extrêmement important. Alors, la description thermodynamique des phénomènes critiques date est élaborée depuis beaucoup plus qu'un siècle. Donc, effectivement, comme je vous l'ai montré, pression et température. Bon, alors, je passe relativement rapidement, puisque là, je ne suis pas en train de faire un cours de physique, c'est pour aboutir aux conséquences sur la réflexion physique et la réflexion théorique qu'il faut que je vous rappelle tous ces points. Donc, une description dans le cadre standard de la thermodynamique où le point critique apparaît comme un point singulier. Vous voyez, c'est le bout d'une courbe de coexistence, c'est l'endroit où se rejoignent deux courbes de coexistence. Donc là, vous voyez, ici, on a le point liquide où apparaît la première bulle de gaz. Ici, le gaz où apparaît la première goutte d'eau. On a toute une zone de coexistence. Et au point critique, bah, cette ligne de coexistence se réduit à un point. Donc, vous voyez, le point critique apparaît comme une espèce de singularité géométrique, mathématique, sur la description standard, la description thermodynamique standard. À ce stade-là, on a, comme je vous dis, un point qui apparaît comme un point singulier mathématiquement, mais on n'a pas de compréhension microscopique du phénomène et surtout pas ni même de perception de la singularité microscopique de ce phénomène. Une première avancée, qui est pourtant, vous voyez, qui date de plus d'un siècle, a été la découverte d'une similitude entre le point critique observé dans les transitions liquide-vapeur et un autre point, le point de Curie, observé dans l'étude des matériaux magnétiques. Donc, c'est le point où cesse le magnétisme spontané. Donc, vous voyez, ici, on a le schéma vraiment très simplifié d'un matériau ferromagnétique et fonction de la température, on a une aimantation spontanée, donc le matériau se comporte comme un aimant, et au-delà d'une certaine température, cette aimantation spontanée disparaît. Donc ça, c'est des expériences qu'on peut faire facilement en cours de physique. On a ce matériau, un aimant qui attire des petits bouts de ferraille, et à une certaine température, le matériau cesse d'être un aimant, la ferraille retombe, la limaille de fer retombe, et on met en évidence ainsi le point de Curie. Et ce qui est frappant, c'est que la description, au moins visuellement, de ce point de Curie, de cette dépendance de l'aimantation par rapport à la température et de l'existence d'un point singulier ici, ressemble, à s'y méprendre, à la même description pour la densité d'un corps pur en fonction de la température, donc liquide, gaz, et ce point critique où la distinction entre liquide et gaz disparaît. Et de même, pour la courbe densité en fonction de la température ou aimantation en fonction de la température, on a une similitude entre cette courbe qui passe par le point critique et la courbe qui n'est pas dessinée parce qu'il s'agit de courbe expérimentale, mais celle qui serait ici. Et là, le champ diminue et à champ nul, on aurait une courbe comme ça, présentant une singularité. Donc, première mise en évidence, il y a plus d'un siècle, d'une similitude de comportement entre le point critique d'un mélange entre liquide-vapeur, le point critique de la transition liquide-vapeur, et du point critique du ferromagnétisme. Donc déjà, même type de phénomène, existence d'un point critique dans les deux systèmes, pourtant complètement différents, et similitude de comportement. L'interprétation microscopique, je la donne dès maintenant, elle a été comprise relativement récemment, donc la première suggestion a été en 1869, la compréhension réelle est beaucoup plus tardive. L'explication du comportement critique vient du fait qu'il n'y a plus de séparation entre les comportements microscopiques et les comportements macroscopiques. On a en particulier des fluctuations ici, donc dans un mélange eau et acide, peu importe, et d'un autre corps, une présence de fluctuations dès le niveau atomique jusqu'à des tailles visibles. C'est ce qui explique l'opalescence critique, ce moment où le mélange liquide-vapeur devient laiteux. C'est expliqué par la présence de fluctuations à notre échelle, jusqu'à nos échelles microniques. Micron, c'est la taille du papier d'aluminium qu'on utilise en cuisine, donc c'est quelque chose qui est appréciable. 10 microns, je crois, je l'ai calculé une fois. Donc, apparition d'une situation, quoi, au point critique, les phénomènes microscopiques et les phénomènes macroscopiques ne sont plus séparés. Et l'argument de séparation des échelles utilisée de façon standard en physique statistique, permettant de passer de la physique statistique à la thermodynamique, n'est plus valable et il est remplacé, nous allons le voir plus en détail dans toute la suite de l'exposé, par l'invariance d'échelle, donc scale invariance au lieu de séparation d'échelle, invariance d'échelle au lieu de séparation d'échelle. On est là aussi, pour faire mention tout de suite d'un deuxième mot-clé de cette journée, le mot d'émergence, le concept d'émergence. On a également ici un phénomène émergent tout à fait caractéristique, puisque les interactions élémentaires ne changent pas avec la température, elles restent toujours des interactions extrêmement locales, mais au point critique, on voit apparaître un ordre macroscopique, un comportement macroscopique, et cela se mesure par la divergence de la longueur de corrélation. Si on mesure la corrélation statistique entre, par exemple, l'état du point ici et l'état du point à grande distance, on va voir que l'état de ces deux points reste corrélé, alors qu'il ne devrait pas l'être. Donc, dans toutes les situations standards en physique, on a des corrélations à courte portée qui permettent de faire des moyennes, des hypothèses de décorrélation. Au point critique, on a une divergence de la longueur de corrélation. On parle aussi, et le mot est peut-être plus intéressant à comprendre, longueur de cohérence. Donc ici, on a un système qui est cohérent à grande échelle. Et cette cohérence à grande échelle va évidemment empêcher d'utiliser tous les outils basés sur des hypothèses de décorrélation, d'ordre local, d'absence de corrélation et autres. Alors, pour aller un petit peu plus loin, puisqu'on va ensuite parler aujourd'hui d'universalité, l'universalité des points critiques concerne une caractéristique bien précise, c'est celle des exposants critiques. Et pourquoi exposants critiques ? D'où viennent ces exposants critiques ? Ils viennent de la signature expérimentale des points critiques. La signature expérimentale des points critiques, c'est des singularités et des divergences. Donc là, vous avez différents exemples, la vitesse du son, l'absorption de la lumière, la chaleur latente. Dans tous les cas, soit une tangente verticale, ce qui, quand on passe à la dérivée, revient à une grandeur qui diverge au point critique. Donc soit des singularités, soit des divergences au point critique. C'est la signature expérimentale. Signature expérimentale qu'on extrapole, la divergence exacte n'existe qu'en taille infinie, comme la notion même de transition de phase. Singularité et divergence au point de transition sont strictes en taille infinie, mais on a quand même une assez bonne perception expérimentale et localisation expérimentale des points critiques. Donc divergence et singularité au point critique. Et de façon encore plus frappante, non seulement on a dans tous les points critiques, à tous les points critiques, des singularités et des divergences, mais ces singularités et ces divergences sont décrites par des lois d'échelle, la grandeur en fonction de, typiquement, la température réduite, température moins température critique, divisée par la température critique, ce qu'on appelle la température réduite. La grandeur qu'on observe se comporte comme T à la puissance quelque chose. Et ce qui est remarquable, c'est que non seulement on peut mesurer expérimentalement cet exposant, il y a réellement une loi d'échelle, c'est pas si fréquent que ça, on parle beaucoup de loi d'échelle, d'exposant, donc il y a beaucoup de situations où on annonce qu'il y a une invariance d'échelle. Il y a peu de situations où l'exposant peut être expérimentalement mesuré avec autant de précision que dans les phénomènes critiques. Donc on peut aller jusqu'à plusieurs décimales de précision, ce qui est absolument remarquable. Donc des exposants critiques très très bien déterminés expérimentalement. Et à partir de là, les physiciens sont arrivés à la notion de classe d'universalité. Alors, que veut dire classe d'universalité ? C'est des classes de systèmes pourtant très différents dans leur composition, dans leur fabrication, qui vont présenter des exposants critiques identiques. Et pas seulement un, mais tout l'ensemble des exposants critiques, ceux que je ne vous ai pas décrits là, c'est vraiment une zoologie de différents exposants. Ces exposants critiques vont être les mêmes, par exemple, pour un modèle d'Ising, un modèle de ferromagnétisme, et expérimentalement des mélanges binaires. Pour l'hélium superfluide et un modèle de spin tridimensionnel. Le ferromagnétisme est un autre modèle où les spins sont maintenant des vecteurs en trois dimensions. Donc, des classes de systèmes partageant les mêmes valeurs pour les exposants critiques et pouvant être rattachés à un modèle théorique standard, modèle d'Ising, donc là, spin vecteur 1D, spin vecteur 2D, vecteur 3D, peu importe, un modèle théorique emblématique de la classe. Et alors, là, on peut commencer à rentrer dans une discussion au-delà de la technique expérimentale de physique théorique, cette notion de classe d'universalité a eu un impact extrêmement fort sur toute la physique statistique parce que c'est probablement le meilleur exemple d'une situation où on a des classes de systèmes réels partageant les mêmes comportements et pouvant être entièrement compris et même décrit quantitativement par un modèle minimal. Donc c'est l'idée vraiment prégnante en physique théorique que des modèles minimaux capturant les principes de base, oubliant les détails concrets de tel ou tel système, peuvent suffire à comprendre les mécanismes, à prédire les comportements, non seulement qualitativement, mais en l'occurrence quantitativement, puisqu'ici, le modèle minimal, par exemple d'Ising, va décrire quantitativement les exposants critiques de toute une classe de systèmes. Donc ça, c'est vraiment un tournant fondamental qui marque encore aujourd'hui, peut-être même encore plus aujourd'hui, la réflexion en physique théorique, qui est de réduire un ensemble de phénomènes physiques se ressemblant, présentant des caractéristiques communes, de les réduire à un seul modèle théorique minimal et ensuite de travailler sur ce modèle théorique minimal. C'est la pensée de physique théorique avec toutes les difficultés que cela peut poser dès qu'on essaie d'exporter la physique théorique à des situations où ce n'est pas valable, comme par exemple les systèmes complexes et la biologie. Donc ça, c'est la pensée typique en physique théorique. Le modèle minimal suffit à expliquer la réalité, on peut oublier la réalité et ne plus travailler que sur le modèle minimal. C'est évidemment très particulier et principalement fondé sur cette étude des phénomènes critiques. Bon, là, c'est un peu plus de détails techniques. On a pu montrer que les classes d'universalité étaient définies par trois paramètres, le nombre de... la dimension du paramètre d'ordre, le nombre de composantes, le nombre d'états du spin et l'espace physique dans lequel se situe le système. Donc, vous voyez, la notion d'universalité a été très très loin, puisque finalement, on a un système physique, il suffit de savoir si on est dans l'espace tridimensionnel ou sur un plan, de savoir combien de composantes du paramètre d'ordre sont nécessaires pour décrire le comportement du système et combien il y a d'états pour l'état, combien il y a d'états élémentaires différents. Donc, vraiment une simplification, une abstraction à l'extrême de la physique d'un système pour décrire les comportements critiques. Alors, évidemment, ça n'est valable que pour les comportements critiques. Mais c'est quand même tout à fait remarquable qu'il y a ce point particulier, cet ensemble, un point particulier pour chaque système où la physique se réduit à trois nombres. C'était un peu mystique, les gens se sont... toute la physique a vraiment été énormément marquée et il y a énormément d'efforts qui ont été consacrés à la compréhension de ces points critiques, à la découverte d'autres points critiques dans différents contextes, à cause de cette particularité, de cette universalité des points critiques, de cette possibilité de classer le monde réel en catégories. Donc, le point critique est un événement extrêmement rare, marginal, très particulier. Il n'y a pas de chance de tomber par hasard sur un point critique. Pour y arriver, il faut vraiment se donner beaucoup, beaucoup de mal. Mais, vous voyez, un comportement par rapport aux explications que l'on peut en avoir, extrêmement particulier et qui a de quoi fasciner. Alors, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail de la modélisation, le modèle d'Ising qui a été le plus étudié, donc vous le connaissez peut-être déjà, il a été proposé en 1925. C'est un modèle très simple, alors, c'est initialement censé représenter des spins, ces petits aimants que certains atomes possèdent. Voyez-les comme une caractéristique microscopique qui peut prendre deux positions, vers le haut, vers le bas, et des interactions très locales, uniquement entre proches voisins, où l'interaction tend à aligner les flèches, les spins, les petites boussoles en chaque point. Donc des interactions à très courte portée, et la température va rajouter du désordre, de l'agitation. Donc on a des interactions qui alignent, de l'agitation thermique qui détruit cet ordre, et le résultat est ce diagramme que je vous ai déjà montré, ici verticalement l'aimantation, horizontalement la température. À température nulle, une aimantation maximale, tous les spins sont alignés, il n'y a aucun désordre, il n'y a pas d'agitation qui va détruire cet ordre parfait, donc soit tous vers le haut, soit tous vers le bas. Quand l'agitation thermique augmente, l'ordre parfait est un peu détruit, jusqu'à un point particulier, et c'est finalement remarquable qu'il y ait ce point. On pourrait penser qu'il y ait une transition graduelle vers un désordre parfait, de l'ordre parfait au désordre complet. Eh bien non, il y a un point particulier avec une singularité qui est ce point critique où l'aimantation disparaît, mais avec typiquement des corrélations à longue portée et des patchs de spin ordonné de toutes les tailles. Le calcul classique utilisé pour déduire l'aimantation globale d'un modèle d'Ising, c'est là aussi une approche extrêmement courante en physique théorique, qui va bien au-delà du cas historique du ferromagnétisme où il a été introduit. Alors là, je suis désolé, je rentre un tout petit peu dans le détail. L'énergie en un point, en un site I, c'est la somme des interactions entre les flèches voisines. Donc on a une somme sur tous les voisins du produit du spin I et du spin J. Et l'idée, c'est de remplacer ces interactions de paires, ces termes qui dépendent du spin où on est I et de son voisin J, pas une moyenne où on va moyenner sur J, là on va remplacer les valeurs spécifiques en chaque voisin par une valeur moyenne M. La somme, celle-là, n'est pas très importante. Et donc, on remplace une somme de SISJ, somme sur J de SISJ, par SI et une moyenne, l'aimantation par spin. Le principe est peut-être plus facile à expliquer visuellement. On a ici le point que l'on regarde. Autour, on a un environnement particulier. L'idée, c'est de remplacer cet environnement particulier par l'environnement moyen. Et à partir de là, chaque élément va être entouré par le même environnement moyen au lieu d'avoir un environnement particulier. D'où le nom mean field, puisqu'on remplace le champ local créé par les voisins par un champ moyen. L'hypothèse qui est derrière, c'est une hypothèse de décorrélation entre les états et d'homogénéisation. Donc, de nouveau, les hypothèses standards, les mêmes que celles que l'on fait en physique dans des situations extrêmement variées pour passer de la description microscopique à la description macroscopique. Et ces deux hypothèses, décorrélation et homogénéisation, sont totalement invalides, échouent complètement au point critique. La découverte a été faite en 1944 par Hunsager, qui a calculé, donc un tour de force de calcul analytique, qui a calculé les exposants critiques du modèle d'Ising sur un plan en dimension 2. Voilà son calcul pour l'aimantation en fonction de la température. Donc, vous voyez, il retrouve bien un point critique. Et le champ moyen, voilà sa prédiction, quelque chose de complètement différent. Tout de même un point critique, mais qui n'a rien à voir avec le calcul exact. Donc ça, en 44, ça a vraiment été un choc, parce que avant ce calcul, tout le monde pensait que les approches de champ moyen étaient, au petit détail près, une très très bonne façon de comprendre les systèmes et de passer de la description microscopique à ce qu'on observe à notre échelle. Donc, l'échec du champ moyen au point critique, et à partir de là, énorme perplexité en physique théorique et beaucoup d'efforts pour comprendre ce qui se passe et comment calculer les comportements macroscopiques si on ne peut pas faire appel au champ moyen. Comment faire pour remplacer, avec quoi remplacer le champ moyen pour obtenir de façon correcte les exposants critiques dans des situations où un calcul analytique comme celui qu'a fait Hunsager n'était pas possible. Et c'est à partir de là que l'on a commencé à développer des outils de renormalisation. Alors, la première idée, c'est celle de Kadanoff en 1966, qui était une agrégation partielle. Donc au lieu de prendre le champ moyen revient à moyenner sur tous les spins qui sont ici, sur tous les systèmes élémentaires. L'idée de Kadanoff, c'est de faire ça comme des poupées russes graduellement. Donc on commence par en moyenne 4, et puis après, ça donne celui-là, puis après on continue, on en remoyenne d'autres, ça donne celui-là. Donc une agrégation progressive de la physique en jeu, des interactions et déduction par là du comportement, au lieu de passer directement à une moyenne. Donc des descriptions mésoscopiques successives. Ça n'a pas tout à fait suffi, et il a fallu des supplémentaires apportés, entre autres, par Wilson, qui a eu le prix Nobel pour l'ensemble de ses travaux, et en particulier l'aboutissement de ses idées de renormalisation. L'idée était d'ajouter un changement d'échelle pour revenir à l'échelle à chaque fois d'un système élémentaire et ainsi réduire la longueur de corrélation apparente. Résultat, on a le système initial avec ses éléments qui interagissent à courte portée mais présentent des corrélations à longue portée. On les regroupe, on calcule l'énergie effective, le modèle effectif, et on ajoute un changement d'échelle pour que ce système soit ramené à la taille d'une case élémentaire, d'un système élémentaire. Et ce faisant, on aboutit à une énergie effective, passe de l'hamiltonien H à l'hamiltonien renormalisé, comme on l'appelle. K, c'est le facteur d'échelle, et il intervient ici, puisque le retour à la case départ permet de réduire la longueur de corrélation. Donc, ce faisant, on agrège les interactions élémentaires et on réduit les corrélations effectives. C'est une procédure récursive qui a une propriété de groupe, d'où le terme standard, le groupe de renormalisation. Évidemment, il n'y en a pas qu'un. C'est une propriété de groupe que partagent toutes les approches de renormalisation développées dans des systèmes aussi différents que l'hydrodynamique, le ferromagnétisme ou les comportements collectifs. Que donne la renormalisation, par exemple, si on prend un modèle qui pourrait représenter le ferromagnétisme? Donc vous voyez, en apparence, les systèmes se ressemblent assez de part et d'autre de la température critique, juste avant, juste au-dessus, un peu moins dense, en dessous, un tout petit peu plus dense. Et quand on renormalise, qu'est-ce qui se passe? Au-dessus de la température critique, on va diminuer la taille des amas. Les amas finissent par avoir une taille caractéristique qu'on va dépasser, donc on va réduire les amas collectifs, alors qu'en dessous de la température critique, on va augmenter cet ordre et ces amas. Et à la température critique, du fait de l'invariance d'échelle de ces amas, on reste identique au système de départ. Donc un système qui est tout autant critique, tout autant avec autant de sans échelle caractéristique comme l'est le système de départ. Voilà le comportement typique de la renormalisation de chaque à la température critique et de part et d'autre. Et puisque là, on parle aujourd'hui d'explications mathématiques, il est apparu dans l'étude des groupes de renormalisation quelque chose de pas si fréquent en physique théorique, où on a pu utiliser un cadre existant, le formalisme des systèmes dynamiques et des bifurcations, sur l'étude de l'opération de renormalisation. Alors là aussi, c'est un peu technique, mais c'est vraiment une idée extrêmement forte. C'est de concevoir cette opération de renormalisation, agrégation des interactions, changement d'échelle, retour à l'échelle élémentaire, donc cette opération récursive, de la voir comme un système dynamique, comme une évolution, dans un espace de modèle. Et c'est là qu'il y a vraiment un saut conceptuel, quelque chose que je trouve extrêmement frappant dans l'étude de renormalisation, c'est que avant, partout, pour toute autre catégorie de travaux théoriques, on a un modèle qu'on va étudier de toutes les façons possibles, avec un outil mathématique, numériquement, on va regarder l'adéquation du modèle aux expériences, mais on a le modèle qu'on va étudier, quoi. On va manipuler de plein de façons, mais finalement, assez rarement relié à d'autres modèles. On peut le faire ponctuellement, regarder le lien entre un modèle microscopique ou un modèle macroscopique, mais jamais de façon aussi systématique que ça a été fait pour la renormalisation, où là, l'étude passe de l'étude d'un modèle à une étude dans un espace de modèle. Là, maintenant, ici, chaque point est un modèle et on va regarder comment les modèles se déduisent les uns des autres sous l'action de la renormalisation. Et c'est l'étude de ce comportement de l'opérateur de renormalisation dans l'espace de modèle qui va fournir un accès quantitatif aux exposants critiques. Alors, c'est assez magique. Je ne vais pas vous l'expliquer là-dessus parce que ça fait vraiment appel à des outils de système dynamique un peu complexes. Je vais essayer de vous l'expliquer sur la percolation. Alors, l'intercollation, c'est une grille de mots croisés et on cherche quand est-ce qu'on a une tache noire qui relie les bords de la grille de mots croisés. Si vous voulez, on peut comprendre la percolation comme ici. Donc, vous voyez ici, on ne peut pas passer d'un point noir ici à un point noir là. Il n'y a pas de chemin continu. Ici, c'est l'inverse. Il y a trop de chemin, on a dépassé. Ici, en revanche, c'est le point où apparaît le premier chemin continu. Percolation, ça vient du percolateur de café. Premier chemin, cette fois, c'est l'eau qui va passer à travers la poudre du café. Situation précise où on peut traverser le système. Les méthodes de renormalisation ont été étudiées pour la percolation. Alors, voilà le système, donc comment on procède. On va décider quand est-ce que, on va considérer non pas une case, mais un ensemble de quatre cases, et on va décider quand est-ce que une macro-case, un ensemble de quatre cases élémentaires, va être considéré comme noir. Donc ici, non, c'est blanc. Là, c'est blanc. Ici, c'est moitié-moitié. Donc avec une probabilité 1,5, ça va être noir. Tout cela, avec une probabilité 1,5, ça va être noir. Et cela, on va considérer que c'est noir. Donc on a ainsi une expression qui va transformer la probabilité qu'une case soit noire en la probabilité que les quatre cases, que la macro-case soit noire. Donc ça, c'est l'opération de renormalisation pour la percolation. Le point de percolation est défini comme le point fixe, invariance d'échelle. On doit avoir la même valeur au niveau d'une case ou au niveau de quatre cases. On réduit d'un facteur 2 la longueur de corrélation. Et si on injecte la loi d'échelle de la longueur de corrélation dans cette relation, on arrive à l'expression de l'exposant critique. Il faut le regarder de près. C'est un peu dur à capter la première fois. J'ai mis quelques années à comprendre comment on pouvait par magie déduire les exposants critiques de ce dessin-là. Donc ça ne saute pas aux yeux, c'est normal. Donc soit vous me faites confiance, je vous donnerai mes slides, vous regarderez ça à tête reposée. On peut le faire. C'est la conclusion, c'est si on est capable de définir cette opération de renormalisation, de l'expliciter analytiquement, on peut calculer les exposants critiques à partir du comportement dynamique de l'évolution dans un espace de modèle. Alors, j'ai terminé par une discussion où là c'est peut-être plus simple avec l'exemple des fractales que tout le monde connaît au moins parce qu'il y a eu beaucoup de publicité sur ces notions. Donc ici l'image que je vous avais déjà montrée qui était une image expérimentale d'un système au point critique, enfin l'essence critique. Ici une image numérique d'un système au point de percolation. Ici un exemple standard de fractal, le tapis de Sierpinski. Et ce qui a été remarqué pour les structures fractales, c'était un papier célèbre de Benoît Mandelbrot, quelle est la longueur de la côte de Bretagne, c'est que, ici ce serait plutôt l'aire de la partie noire ou l'aire de la partie rouge, pour une structure fractale, des quantités comme la longueur, l'aire ou le volume occupé, n'ont pas de sens, parce qu'elles dépendent de l'échelle à laquelle on va le mesurer. La côte de Bretagne, suivant qu'on la mesure à l'échelle du kilomètre, du mètre ou du centimètre, ne va pas avoir la même longueur. Donc les outils habituels pour mesurer, pour caractériser un système, pour appréhender la réalité, échouent. La notion de longueur n'a plus de sens. Ici, la notion de R rouge n'a plus de sens. En revanche, pour des structures fractales ou au point critique, on a des relations d'échelle. Quelle est la taille, la masse rouge, par exemple, en fonction de la taille du système L et A de la résolution avec laquelle on mesure, on a une loi d'échelle de cette taille-là. Donc, scaling aussi bien par rapport à la taille globale du système que par rapport à l'échelle à laquelle on mesure. Donc cette quantité-là à laquelle on est habitué, ce qu'on mesure d'habitude, n'a plus de sens, puisqu'elle va dépendre de deux paramètres que d'habitude on ignore, la taille complète du système et l'échelle à laquelle on mesure. En revanche, si on fait beaucoup de mesures avec des tailles de systèmes différents ou des résolutions différentes, on va pouvoir déduire cette loi d'échelle, et ce qui prend du sens, ce qui devient la caractéristique objective décrivant le système, c'est la dimension fractale, c'est l'exposant critique. Donc on change complètement de paradigme, les observables habituelles deviennent totalement subjectives, elles vont dépendre des outils d'observation, elles vont dépendre de l'échelle à laquelle se trouve l'observateur. En revanche, en confrontant des mesures subjectives différentes, on arrive à une quantité objective. Donc c'est vrai pour les structures fractales, on arrive ici à l'expliquer à peu près simplement, mais c'est exactement ce qui se passe dans l'approche de renormalisation. Chaque modèle est un modèle possible du système réel. Ils sont tous mauvais, ils sont tous subjectifs, ils ne suffisent pas. Mais la comparaison de ces modèles, le lien qu'ils présentent entre eux, qui est ce qu'on calcule avec l'analyse de ce schéma, ce que j'ai essayé de vous montrer ici, ce qu'on calcule avec l'analyse de cette transformation, c'est un exposant qui, lui, est universel. Il est même tellement objectif qu'il va même décrire davantage que le système qu'on considère, mais toute une classe de systèmes, la classe d'universalité. Donc il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de techniques physiques, mais j'espère qu'on va pouvoir revenir sur les points qui vous ont le plus attiré.
J'ai un commentaire. Je suis physicien et donc je travaille au CERN, et donc le champ de Higgs qui est responsable du fait que les particules ont une masse, c'est une transition de phase également qui sera apparue donc 10 puissance moins 11 secondes après le Big Bang. Le champ était nul avant ce temps-là, il faisait trop chaud. Après, la température s'est abaissée suffisamment pour que le champ apparaisse, devienne non nul et interagisse. Alors, ce champ a quatre composantes, trois interagissent avec les particules, leur confèrent une masse, l'électron a une masse, le quark a une masse. Et une composante ellipse, c'est le boson de Higgs qu'on a découvert au CERN. Donc c'était la preuve que ce mécanisme ou ce champ, finalement, on le rentre à la main. C'est-à-dire que ça marche très bien, mais je dirais malheureusement, on rentre ce phénomène qui remplit l'espace, le champ remplit tout l'espace vide, à la main. Ceci étant dit, on fait tous les calculs et la théorie colle parfaitement avec l'expérience. Voilà. Donc on arrive au niveau microscopique à expliquer un phénomène qu'on a observé maintenant, qui était attendu depuis 48 ans, et finalement on l'a mis en évidence, on l'a confirmé. Le seul problème, c'est que ce champ de Higgs, dont on est sûr qu'il existe, on le rend de façon théorique à la main. Donc il faudrait une théorie plus générale qui permette que ce champ apparaisse naturellement, et non pas d'une manière, je dirais, un petit peu comme ça, un peu arbitraire. Mais c'est exactement ce qui se passe avec le ferromagnétisme, le point critique, c'est exactement la même chose. Alors, je ne sais pas, par contre, si les paramètres universels...
Oui, est-ce que c'est... Est-ce qu'on peut aussi avoir des transitions de phase
qui sont différentes.
Les points critiques sont des transitions de phase particulières. On parle de transition du second ordre par opposition à la transition qu'on connaît tous, faire bouillir de l'eau, faire fondre de la glace.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui, j'aimerais te demander de faire le lien avec l'émergence, et plus particulièrement, est-ce que les phénomènes critiques dont tu as parlé, la renormalisation, est-ce que tu penses que ça permet de mieux comprendre, de mieux qualifier ce qu'on appelle l'émergence, beaucoup plus que les transitions de phase classiques? Et si oui, pourquoi?
Alors, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Les phénomènes critiques sont des situations où il y a assez peu d'émergence, puisque finalement, ce qu'on observe à notre échelle, c'est la même chose que ce qui se passe au niveau microscopique. Il n'y a pas de changement qualitatif apporté par le fait de regarder le système dans son ensemble. Donc c'est vraiment l'inverse de tout ce que décrit Philip Anderson dans « More is different » en disant qu'une foule, ce n'est pas un ensemble d'individus, le fameux paradoxe sorite du grain de sable, deux grains de sable, trois grains de sable, un tas de sable, qui est quelque chose de complètement différent. Ici, précisément, on a cette photo, puisque c'est une photo, c'est une vraie expérience, peut être prise aussi bien au niveau atomique que 10, peut-être 4 ordres de grandeur au-dessus, 4, 5 ordres de grandeur au-dessus. Donc sur plusieurs ordres de grandeur, donc de l'ordre de 4, 5, 6 ordres de grandeur, on a le même type de phénomène. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on entend habituellement par émergence, qui est l'apparition d'un phénomène complètement différent, imprévu, à partir d'un comportement, de comportement élémentaire. On connaît les comportements élémentaires, on connaît les interactions entre les comportements élémentaires. L'émergence, c'est typiquement, il apparaît quelque chose de... donc si je reprends le modèle d'Ising, donc voilà, on connaît les interactions entre les spins, et ici, il apparaît quelque chose de totalement imprévu, c'est un ordre à grande portée, un ordre global. Donc ici on aurait émergence, et ici finalement qu'est-ce qu'on voit? On voit la même chose à toutes les échelles. On regarde 2 cases, 4 cases, 10 cases, 10 millions de cases, ça va être la même chose. Donc c'est presque l'anti-émergence de ce point de vue-là. Ma dernière slide est un jeu de mots, puisqu'il y avait Emerging Reality quelque part dans le titre des journées. Donc là c'était juste pour dire que qui est vraiment une caractéristique où on a l'impression qu'on décrit précisément, exactement, objectivement la réalité, c'est dans la dimension fractale, et non pas dans la mesure habituelle de longueur, ou de masse, ou de volume. Donc c'est en ce sens que les lois d'échelle donnent un autre accès, une réalité différente, un accès différent à la réalité, mais c'est plus un jeu de mots qu'une réelle réflexion sur l'émergence. Les phénomènes critiques, pour moi, ne sont pas tant des phénomènes émergents que ça. Bon, alors, il y a une part d'émergence, puisqu'il apparaît... ce qui est émergent dans un phénomène critique, c'est l'invariance d'échelle, qui là est quelque chose d'assez remarquable, imprévu. Mais ce n'est pas ce qu'on entend habituellement par émergence, où on voit à notre échelle quelque chose d'imprévu au niveau microscopique. Là, on voit la même chose, c'est un peu comme un cristal, on voit la même chose.
Moi, j'ai juste une question très naïve, peut-être que c'est pas très intéressant. Mais vous avez dit à un moment, quand vous avez expliqué que c'était le point critique, vous avez dit que le point critique, il faut vraiment aller le chercher.
Oui.
Ça n'apparaît pas. Enfin, et donc, je me demandais, est-ce que c'est ça une caractéristique de phénomène émergent ou de propriété émergente, le fait de pouvoir les observer qu'avec des instruments?
Non, c'est justement c'est ce que je viens de dire, c'est vraiment l'inverse. Les phénomènes émergents, on en a partout autour de nous. On est, pour revenir à ce que disait monsieur, il y a des bosons de X partout, on ne s'en rend pas vraiment compte. Donc notre monde est émergent par rapport à la réalité atomique, à la réalité encore en dessous quantique. Quand on regarde une foule, c'est un phénomène émergent. On est entouré de phénomènes émergents, alors que... voir spontanément un phénomène critique, c'est rarissime. Là, après, c'est le travail des expérimentateurs, il y a des techniques pour y arriver, mais c'est vraiment un point extrêmement particulier.
Chris, yes, I apologize for not being able to ask my question in French, but I found your presentation very helpful, especially the way you frame things in terms of scale separation that we have in many cases versus the scale invariance that we have in this case. When we have scale separation, then it's possible to give a certain kind of explanation sometimes that will relate the macro phenomenon back to the micro phenomena, like in the diffusion case that you mentioned. And it seemed to me that you were saying that in the scale invariant cases, or at least these ones, that kind of explanation is no longer possible.
Because there is no longer separation between the microscopic and the macroscopic
right. And observations. So, at least according to one way of thinking about emergence, when we are not able to achieve that sort of explanation from the micro up to the macro, we have some kind of emergence. Even though, in your case,
yeah.
we don't have something new, as you were putting it with Anderson.
It's,
but the but my question was more. It seemed like you were also making an additional point, which was that the only way to explain, or the only way that we know to explain the value of the critical exponents, was by comparing a series of models.
Yes, this is the principle of randomization.
And it seems like that's also that could be used to claim that. It looks like then we have a special kind of explanation of the value of the critical exponent involving the comparison of all these models.
Yeah, the standard situations, you have scale separation, so you have different phenomena, different observations, and you relate exactly as you said. So the explanation lies in relating the observation you made at different scales. In the case of critical phenomena, it is a transverse view. The explanation comes from the very observation is describes the relationships between the measurements at different scales. So even you cannot speak of one observation. So it is the whole series of observations which really characterize the system, and it is captured in one exponent. So this is the meaning of an exponent. It is in the absence of any characteristic scale for the system, you turn to an exponent, which describes in a kind of transverse way the different, all the series of relationships between a measurement and another at a given scale. So it's really two extreme view of the reality. Either you have a transverse explanation or layers that are related one to the other.
Mm-hmm.
So either you have a characteristic scale or you have a critical exponent. So it is two categories of systems. Really, and of course, the continuum in between, but these are really two very two extreme cases of the link between of the relationships existing between the different scales in the system.
Okay, that's helpful. Thank you.
Quentin Rodriguez. Une question plus sur l'aspect explication mathématique. Quelque chose que je me demandais, c'est, on parle de loi d'échelle à partir du moment où on a une invariance d'échelle, donc avec les exposants critiques, dimensions fractales, etc., que vous avez montré à la fin. Mais même quand on a séparation d'échelle, on a aussi des lois d'échelle sous forme d'analyse dimensionnelle, par exemple. Non ? Donc, en fait, ma question, du coup, était sur le rapport entre l'analyse dimensionnelle traditionnelle, quand on a séparation d'échelle, qui fonctionne bien, et les lois d'échelle de type renormalisation et dimension fractale. Est-ce que, pour vous, il y a une forme de prolongement ou de séparation, à l'inverse
Si on prend la dimension fractale, un cristal a une dimension fractale de 3. Ça, c'est l'analyse dimensionnelle habituelle. Traditionnellement, on parle de structure fractale quand la dimension fractale n'est pas triviale.
Donc, est-ce qu'en un sens, c'est une forme de prolongement de l'approche de l'analyse dimensionnelle à des exposants
oui,
non entiers?
C'est la notion de dimension non entière.
Oui.
Donc, on peut penser... Et effectivement, que toute l'analyse dimensionnelle à laquelle on est habitué, par exemple en dimension 3 pour un cristal, va se transmettre à l'analyse d'une structure fractale avec cette fois la dimension fractale. Ça a été fait, par exemple, pour décrire des processus sur des structures fractales, on va utiliser ce qu'on appelle la dérivation fractionnaire. Donc au lieu de dériver, de prendre une dérivée spatiale standard, on va prendre une dérivée fractionnaire. Là aussi, c'est un peu technique, mais ça revient exactement à ça. Au lieu de dériver par rapport à trois dimensions, on va dériver un truc, il faut un peu tricher, parce que c'est penser en dimension fractionnaire, c'est pas immédiat. Donc ça peut se faire que formellement, avec une fois que dans les maths, la dimension apparaît que comme un chiffre. Si on commence à penser une pièce de dimension 3, on voit bien les trois axes. Un axe et demi, on a du mal. Mais il faut échapper dès que c'est écrit sous forme mathématique et que la dimension apparaît uniquement la forme d'un paramètre D, on peut très bien se faire un continuum entre D égale 1, 2, 3, et puis les dimensions fractales entre. Donc, par exemple, la dérivation fractionnaire a été conçue sur cette idée d'interpoler entre les dimensions dont on a l'habitude et les outils dont on a l'habitude dans les espaces standards.
Donc, si je comprends bien, si on exprime tout uniquement en termes de loi d'échelle, on va voir une signature en quelque sorte d'une invariance d'échelle à partir du moment où on va voir des exposants fractionnaires ou non entiers.
Non, parce que l'invariance d'échelle, il faut qu'elle existe. C'est pas uniquement une question de... Là, je vous en ai montré une. Il faut que les points soient alignés sur une droite. Bon, le globe, c'est ça. C'est pas tous les phénomènes qui sont comme ça. Donc on n'a pas partout de l'invariance d'échelle et pas partout des lois d'échelle.
Oui, non, bien sûr. Alors, je reformule ma question. Si on me donne une loi d'échelle, quelle qu'elle soit, est-ce que je peux savoir que c'est la signature d'une invariance d'échelle en regardant la nature de l'exposant, est-ce qu'il est entier ou non entier?
Alors, une loi d'échelle, qu'est-ce que ça veut dire, une dépendance où on a une droite comme ça en log-log? Ça veut dire qu'on a une dépendance exponentielle, A égale t puissance quelque chose. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de cette fonction-là, A en fonction de t, n'a pas d'échelle caractéristique. Il n'y a pas une longueur particulière, une valeur de t particulière qui dit avant, on a tel type de phénomène, au-dessus, on a tel type de phénomène. Là, on a une dépendance qui est valable, que t soit très très petit ou t très très grand. Donc là, il faut que le système, effectivement, n'ait pas d'échelle caractéristique. Donc, on voit apparaître une loi d'échelle pour une grandeur x en fonction de y, dès qu'il n'y a pas d'échelle caractéristique pour y. Ce n'est pas tous les phénomènes. En plus, la loi d'échelle, c'est un raccourci, c'est... Expérimentalement, c'est très difficile de mettre en évidence une loi d'échelle. Il faut qu'il y ait plusieurs décades, ici, donc dans les deux sens. Et il y a plein de choses qui ressemblent à des lois d'échelle. Par exemple, une superposition de gaussiennes, d'exponentielles assez différentes donne quelque chose qui peut de loin ressembler à une loi d'échelle. Donc, loi d'échelle, ce que ça veut dire, c'est absence d'échelle caractéristique. Et cette relation particulière, après, je ne comprends pas très bien ce que...
J'avais en tête, par exemple, quand on a des systèmes homogènes, on peut faire des formes de lois d'échelle simplifiées, par exemple, sur le rapport du volume à la surface, sur des choses comme ça, où on va avoir...
Oui.
Si on grossit le système x fois, eh bien, son volume va...
Alors,
x fois, etc.
Là on tombe sur les sens multiples de invariance d'échelle. Ce à quoi vous faites référence, c'est ce qui est parfois appelé allométrie.
Ouais.
Donc comment les choses vont grandir, quoi, quand l'une varie, comment l'autre varie. Donc c'est des relations d'échelle allométriques entre deux grandeurs. Ici, l'invariance d'échelle veut dire qu'on n'est pas capable si je vous donne, c'est l'exemple ici, cette photo-là, je ne suis pas capable de dire quelle est la taille ici. Donc c'est vraiment l'idée qu'on a un phénomène qui n'a pas d'échelle caractéristique, qui est le même dans tout un tas de sur un très très grand nombre d'échelles d'observation différentes, comme les structures fractales.
Peut-être que là, vous allez pouvoir prolonger la discussion plus tard, puisque justement Quentin va parler après vous. On peut vous remercier. Merci beaucoup, Quentin.